Et c'est le journal d'Anne-Laure Chouin. Bonjour Anne-Laure.
Bonjour Guillaume, bonjour à toutes et à tous. Nous serons au Sénégal dès le début de ce journal. Hier, le nouveau président de gauche, Bassirou Diomaye Faye, a prononcé son premier discours à la nation, discours de souveraineté à la veille de l'anniversaire de l'indépendance du pays.
L'OTAN fête ses 75 ans dans un contexte de plus en plus incertain, alors que l'Ukraine est en difficulté face à la Russie.
Et puis en France, nous reviendrons sur l'enquête qui vise Édouard Philippe pour un soupçon de conflit d'intérêts à la mairie du Havre. Après ce journal, votre question du jour, Marguerite Caton.
Assurance maladie, qui sont les fraudeurs ?
Un discours de renouveau à la veille de la fête nationale du Sénégal. Hier, le nouveau et plus jeune président du Sénégal, Bassirou Diomaye Faye, a dessiné dans son discours donc les grandes lignes de son programme pour le pays, au terme d'une élection surprise et d'un processus de transition démocratique agité, retardé, mais finalement victorieux. Élu, on le rappelle, le 24 mars dernier, dès le premier tour avec 54% des voix, il a nommé comme premier ministre celui qui représentait la figure de l'opposition à l'ancien pouvoir de Macky Sall, Ousmane Sonko. Avec un programme de lutte contre la corruption et de retour de la souveraineté du Sénégal à tous les niveaux, qu'il a donc décliné hier dans son premier discours à la Nation. Le reportage à Dakar de Théa Olivier.
Pile à l'heure, Bassirou Diomaye Faye a pris la parole derrière son pupitre lors du traditionnel discours à la nation prononcé la veille de la fête de l'indépendance. Il a annoncé des concertations en vue de prendre des mesures fortes concernant la vie chère, mais avant, il a rappelé que la jeunesse est au centre de ses préoccupations.
L'éducation, la formation au métier, l'emploi, l'entrepreneuriat des jeunes et des femmes restent des défis majeurs à relever. J'en ferai une priorité élevée des politiques publiques en concertation avec le secteur privé. Je compte m'appuyer sur un secteur privé fort parce que soutenu par l'État.
Réforme du système électoral, assise pour trouver des solutions aux problèmes de la justice, mais surtout l'ancien inspecteur des impôts devenu président de la République a insisté sur sa volonté d'instaurer une gouvernance vertueuse, notamment en vue de la prochaine exploitation des ressources pétrolières et gazières.
J'engagerai sans tarder une politique hardie de bonne gouvernance économique et financière par la lutte sans répit contre la corruption, la répression pénale de la fraude fiscale et des flux financiers illicites, la lutte contre le détournement des deniers publics et le blanchiment d'argent.
Bassirou Diomaye Faye a réitéré l'ouverture du Sénégal aux pays amis et aux partenaires, tout en rappelant qu'il reste engagé pour une gouvernance mondiale plus juste et plus inclusive, dans le respect de l'égale dignité des valeurs, des cultures et des civilisations.
Et désormais, c'est au Premier ministre et véritable homme fort du nouveau pouvoir, Ousmane Sonko, de présenter un gouvernement. On reste sur le continent africain, où l'actualité concerne de plus en plus la faune sauvage, victime du commerce des trophées de chasse. Mardi, le président du Botswana a menacé l'Allemagne de lui transférer jusqu'à 20 000 éléphants après que Berlin avait critiqué la chasse aux pachydermes et les exportations de trophées en découlant. Ces derniers jours, une autre polémique se fait jour en Afrique du Sud où 8 000 lions vivent en captivité. Des lions élevés pour être chassés, exhibés ou abattus pour leurs os qui sont ensuite exportés vers l'Asie du Sud-Est. Mais cette industrie est de plus en plus impopulaire et le gouvernement sud-africain craint désormais qu'elle ne fasse du tort aux tourisme, qui au contraire est centré autour de la protection de la vie sauvage. Pretoria a donc décidé de mettre fin à ses élevages de lions, mais en douceur et sur la base du volontariat, car il représente près de 2000 emplois. Sur place, Romain Chanson.
C'est un long combat qui finit par payer pour Louise Deval. Elle dirige l'ONG Blood Lions qui milite pour la fermeture des élevages depuis 2015.
We've never been closer to ending this.
On n'a jamais été aussi proche de mettre fin à une industrie aussi immorale fondée sur l'exploitation. De nombreux lionceaux sont arrachés à leur mère prématurément pour être utilisés dans des attractions touristiques quand ils sont un peu plus vieux. D'autres sont abattus dans des chasses fermées.
Richard York, le patron d'une association d'éleveurs, accuse le gouvernement de se soumettre au terrorisme émotionnel. Il lui reproche aussi de ne proposer aucun dédommagement à ceux qui accepteraient de se reconvertir. Il prend pour exemple un fermier volontaire qu'il connaît.
Il a fait part de sa proposition en leur disant qu'il possédait une ferme de 3000 hectares dans le Kalahari. Il leur a dit « Mon activité n'est viable qu'avec le commerce des lions. Si vous retirez mes lions, tout mon élevage d'animaux sauvages s'effondre. On retrouve toujours les mêmes de personnes qui font tout un tatamarre pour dire que l'élevage abîme l'image de l'Afrique du Sud. Eh bien, vous savez quoi ? Allez-y, trouvez-moi de l'argent pour financer mon organisation à but non lucratif.
Si le gouvernement parvient à abolir l'élevage des lions dans les années à venir, les éleveurs pourraient se tourner vers d'autres carnivores, comme les tigres, une espèce pourtant étrangère au continent africain.
Elle a 75 ans et fait plus que jamais la une de l'actualité, après avoir pourtant été considérée comme mourante. L'OTAN fête aujourd'hui l'anniversaire de sa création, alors que l'Alliance est confrontée à une guerre d'une ampleur qu'on croyait révolue, selon les mots de son secrétaire général Jens Stoltenberg. Il fait référence à l'Ukraine, évidemment. Et c'est sur ce dossier que les ministres des Affaires étrangères des 32 pays de l'OTAN sont réunis en ce moment pour discuter des moyens d'inscrire l'aide militaire à l'Ukraine dans la durée, notamment parce que l'incertitude plane du côté des États-Unis en cas de victoire de Donald Trump à la prochaine présidentielle. Christian Chéneau.
L'OTAN martèle qu'elle entend soutenir l'Ukraine jusqu'à la victoire, ce qui ouvrirait la voie à son intégration dans l'Alliance. Mais cette perspective semble s'éloigner. L'armée de Kiev manque d'obus, de missiles, de matériel militaire pour répondre aux coups de boutoir des Russes qui progressent sur le terrain. Et puis, il y a un grand point d'interrogation. Qui sera le prochain locataire de la Maison-Blanche en novembre prochain ? Une victoire de Donald Trump pourrait alors entraîner un changement de pied de Washington et moins d'aide militaire américaine à l'Ukraine. Un scénario que veulent d'ores et déjà anticiper les membres européens de l'Alliance, d'où l'idée en discussion d'enjamber l'élection américaine et de proposer un plan de soutien à Kiev qui s'inscrirait dans la durée. Nous devons revoir la dynamique de notre soutien à l'Ukraine, reconnaît Jens Stoltenberg, le patron de l'OTAN. Un fonds de 100 milliards d'euros sur 5 ans est évoqué pour sanctuariser l'engagement de l'Alliance auprès de Kiev.
Christian Chéneau.
7h06 sur France Culture, la suite du journal d'Anne-Laure Chouin en France. L'ancien Premier ministre et maire du Havre, Édouard Philippe, est lui dans le viseur du parquet national financier.
Oui, des perquisitions ont eu lieu à la mairie du Havre et au siège de la communauté urbaine dans le cadre d'une enquête préliminaire pour des soupçons de conflit d'intérêts autour d'un marché public. L'enquête a été confiée à l'Office anticorruption et à la police judiciaire de Rouen. Elle s'intéresse à une mission confiée à une association qui était présidée par l'adjointe d'Édouard Philippe, Stéphanie de Baselaire, chargée de l'animation de la cité numérique de la ville. C'est un ancien agent public qui avait déposé plainte l'année dernière. Les précisions de Florence Turm.
Cette plainte émane de l'ancienne directrice générale adjointe de la communauté urbaine dont Édouard Philippe n'avait pas renouvelé le contrat à durée déterminée en avril 2023. Elle dénonce notamment le harcèlement moral dont elle aurait fait l'objet dès lors qu'elle a commencé à soupçonner et à dénoncer en interne plusieurs atteintes à la probité, notamment un contournement des règles des marchés publics. La communauté urbaine ayant signé une convention d'objectifs d'un montant de plus de 2 millions d'euros sur 4 ans pour l'exploitation de la cité numérique avec une association présidée par l'adjointe chargée du numérique à la mairie du Havre, également visée par cette plainte. Et les perquisitions menées hier constituent un acte fort des débuts de l'enquête préliminaire, estime Christelle Mazat, l'avocate de la plaignante.
C'est un signe fort parce que ça montre qu'il y a une crédibilité. C'est très important de comprendre que dans ce dossier, nous avons l'archétype d'une personne désintéressée, courageuse, qui fait son travail de citoyenne et d'agent public, et qui sert l'intérêt général, la protection des deniers publics, l'argent du contribuable. Pour qu'on ait des perquisitions comme ça aussi, c'est que le signalement était à la fois crédible et étayé pour justifier de telles investigations.
Reste un dossier à la fois complexe et technique, d'autant que l'association bénéficiaire de la convention a fait l'objet d'une liquidation judiciaire. Les documents saisis à la mairie et à la communauté vont maintenant être analysés par les enquêteurs qui peuvent également décider d'entendre les différents protagonistes avant que le parquet national financier ne décide des suites à donner à cette enquête préliminaire. Elle peut déboucher sur un renvoi direct en correctionnel, sur la désignation d'un juge d'instruction pour de plus amples investigations ou encore un classement sans suite.
Une proposition de loi pour restreindre l'utilisation des polluants éternels, les PFAS, est examinée ce matin à l'Assemblée nationale. Un texte porté par les députés écologistes dans le cadre de leur journée d'initiative parlementaire. Présents dans les cosmétiques, les ustensiles de cuisine, les textiles, mais aussi dans l'eau, ils sont non dégradables et provoqueraient notamment un risque de cancer accru. On y reviendra largement dans le journal de 8h. Et puis c'est justement ce matin qu'on apprend que l'ANSES, l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, confirme la contamination généralisée des eaux minérales du groupe Nestlé au PFAS, justement, mais aussi aux bactéries et aux pesticides, comme révélé en janvier par France Info et Le Monde. Plus grave, les experts évoquent un niveau de confiance insuffisant pour garantir la qualité sanitaire des eaux minérales naturelles en bouteille des marques Perrier, Contrex, Vittel et Par et autres propriétés du groupe. Où l'on reparle des retraites, ce matin à 10h se réunit le Conseil d'orientation des retraites, le COR, dont les analyses sur l'évolution du régime servent souvent d'argument à ceux qui veulent réformer le système ou au contraire le maintenir. Formé de 41 membres issus du monde politique, syndical et économique, il se préparera à la sortie de son nouveau rapport annuel. Mais cette fois, le nouveau président du COR, l'économiste Gilbert Sette, souhaite changer la méthodologie du rapport et partant ses conclusions. Tous les syndicats ne sont pas d'accord. On fait le point avec Wafia Kenich.
Sur le fond, c'est un peu technique, mais c'est là que réside le débat. Jusqu'ici, le COR, dans son rapport, décrivait 4 hypothèses sur la productivité du travail. C'est l'un des critères majeurs pour réaliser les projections sur notre système de retraite. Le nouveau président, Gilbert Sette, présente aujourd'hui un projet de simplification de ce rapport. Son souhait, prendre l'hypothèse la plus pessimiste en matière de croissance de la productivité. Une manière, selon un haut fonctionnaire, de justifier la réforme passée sur le refrain « on vous l'avait bien dit, le régime va mal » et donc la réforme était nécessaire. Ce possible changement de méthode braque une partie des syndicats qui étaient tous opposés à cette réforme des retraites. Selon un membre du COR, Gilbert Sette mettrait en péril l'institution qui fonctionne depuis sa création en 2000 sur le compromis. Il manque de considération pour ses interlocuteurs, il est persuadé d'avoir la vérité, me rapporte un autre observateur. Sauf qu'au sein du corps, il n'y a pas de vote, mais un consensus tacite basé sur les compromis et la discussion. Sans cela, le rapport aura du mal à voir le jour, un scénario jusqu'ici inédit.
Enfin, c'est une volonté réitérée du gouvernement, le rapprochement entre France Télévisions et Radio France. Il s'est encore incarné hier avec l'annonce de 2 nominations, mais aussi un cahier des charges éditoriales qui se précise et le regroupement à terme des 2 rédactions de France Info sur un même lieu. On le rappelle, la ministre de la Culture, Rachida Dati, souhaite qu'une gouvernance unique soit mise en place dès cette année. Éric Chavroux.
2 nominations pour un nouveau coup d'accélérateur dans la collaboration éditoriale entre radio et télévision de service public. Presque au même moment, hier midi, les équipes, journalistes en particulier, ont été informées à Radio France et à France Télévisions de la désignation de 2 directeurs de projet. Jean-Philippe Baye, déjà directeur de la Radio France Info et de l'information à Radio France, devra ainsi désormais, je cite, « renforcer l'intégration des 3 canaux, radio, TV et numérique, avec toujours une stratégie de médias global, mais nouveauté selon le communiqué de France Télévisions, en vue d'un rapprochement des rédactions au sein d'un même lieu ». Refusant le mot de fusion, Jean-Philippe Baye a toutefois précisé à son équipe qu'il n'existait pas pour l'instant de locaux disponibles. Depuis France Télévisions, Xavier Riboulet est lui chargé avant tout de déployer à partir de la rentrée prochaine la marque commune déjà choisie pour France 3 et France Bleu, ici, quand 35 matinales communes ont déjà été déployées et un site internet commun est annoncé pour septembre. Les dirigeantes Delphine Ernotte et Sybille Veil pressent la mise en place des transformations et des rapprochements qui leur sont demandés, alors que le budget de l'audiovisuel public compte désormais une part variable, conditionnée à des projets de transformation et de modernisation, avec l'argument premier vanté par la ministre de tutelle Rachida Dati et de nombre de parlementaires, faire face à une concurrence renforcée.
Le temps de ce jeudi, en bref. Giboulée au nord, plus calme au sud. Les températures comptaient au minimum 4 à 12 degrés ce matin. 4 à 12 degrés, pardon, ce matin. Comptaient cet après-midi entre 15 et 24 degrés. C'est la fin de ce journal et la suite des Matins de Culture avec vous, Guillaume Erner.
Merci, Anne-Laure Chouin. Avec dans quelques secondes la question du jour de Marguerite Caton, Assurance Maladie. Qui sont les fraudeurs ?